Chapitre 5. La tempête éclate. Le soleil couchant était encore à mi-chemin de l'horizon quand le petit groupe s'engagea sur le sentier qui serpentait jusqu'au sommet de la colline où se dressaient les granges. L'endroit choisi par Reneil. Et selon ce qu'Elaine savait sur les interventions climatiques, un savoir glané auprès d'une régente des vents, c'était une démarche logique. Altérer le temps au-delà de son environnement le plus proche impliquait de travailler sur de longues distances. Bien entendu, ça impliquait de voir sur de longues distances. Un jeu d'enfant sur l'océan, mais pas sur la terre ferme. Sauf si on se perchait sur une colline ou une montagne. Ces interventions exigeaient aussi beaucoup d'adresse. Pour éviter de provoquer un déluge, une tempête, ou la lumière seule savait quelle catastrophe naturelle. Quoi qu'on fasse, les effets se répandaient comme des ondes dans une mare, lorsqu'on y jette un caillou. Elaine n'avait aucune envie de diriger le cercle qui allait utiliser la coupe. Totalement dénudé, le sommet de la colline était plat, vu de loin, mais quand même assez accidenté. Un plateau de roches de 150 pieds de long pour autant de large. Bref, assez de place pour toutes les personnes qui devaient être là et pour celles qui n'avaient rien à y faire, si on voyait les choses froidement. À plus de 150 pieds au-dessus de la ferme, le panorama était impressionnant. Des fermes, des forêts, des oliveraies s'étendaient à l'infini, le marron et le mordoré dominant nettement le vert dans la palette des couleurs. Un indice de sécheresse qui justifiait amplement ce qu'allaient faire Elaine et ses compagnes. Pourtant, même ainsi, la beauté de ce paysage coupa le souffle à la fille héritière. Malgré une très légère brume, on voyait à une distance incroyable. Et à part de rares collines, toute la région était parfaitement plane. Au sud, Éboudard était hors de vue, même si Elaine utilisait le pouvoir pour améliorer son acuité visuelle. Mais il lui semblait qu'un rien aurait suffi pour qu'elle aperçoive la cité, ou au minimum le fleuve Eldar. Une vue merveilleuse, oui, mais qui ne séduisait pas tout le monde.
« Une heure gaspillée, »
marmonna Ninévé, en foudroyant Réanne du regard. Et toutes les autres femmes aussi. En l'absence de l'âne, elle semblait vouloir saisir l'occasion de donner libre cours à son tempérament de cochon.
« Près d'une heure. Et peut-être plus. Du temps perdu. Alice est compétente, j'imagine. Mais on aurait quand même pu croire Réanne informée de qui est ici et de qui n'y est pas. Si cette idiote s'évanouit encore une fois devant moi... »
Elaine espéra que l'ancienne sage-dame se retiendrait encore un peu avant d'exploser. Parce que le cyclone menaçait d'être dévastateur quand il se produirait. Réanne s'efforçait de paraître joyeuse et enthousiaste. Mais elle ne restait pas un instant en paix, triturant le devant de sa robe. Semblant sur le point de vomir, Kirstian se contentait de serrer très fort le devant de la sienne. Et dès que quelqu'un la regardait, n'importe qui, elle tressaillait. La troisième femme de la famille, Garenia, était une négociante du Saldaea, au nez proéminent et à la bouche large. Petite, les hanches étroites, elle était plus puissante que les deux autres, alors qu'elle ne semblait guère plus âgée que Ninévé. Le visage lustré de sueur, elle écarquillait ses yeux noirs chaque fois que son regard se posait sur une Aes Sedai. Encore un effort, songea Elaine, et on découvrirait que les yeux d'une personne pouvaient, pour de bon, lui sortir de la tête. Au moins, Garenia avait cessé de gémir depuis que le petit groupe était au sommet de la colline. Deux autres femmes séjournant à la ferme auraient pu être assez puissantes, enfin, peut-être, car la famille accordait fort peu d'attention à ce critère. Mais la dernière des deux était partie 3 jours plus tôt. À part ça, personne n'approchait des critères requis. Une des raisons de l'humeur massacrante de Ninévé. L'autre, c'était que Garenia comptait parmi les toutes premières femmes à s'être évanouie dans la cour. Et à deux reprises, quand on l'avait réveillée, elle était de nouveau tombée dans les pommes en apercevant une Aes Sedai. Ninévé étant ce qu'elle était, elle n'était pas prête de reconnaître qu'elle aurait pu, tout simplement, demander à Alice qui était encore à la ferme ou non. Ou lui dire ce qu'elle cherchait avant que la pauvre femme soit obligée de le lui demander. L'ancienne sage-dame ne concevait pas que quelqu'un, à part elle-même, ait assez de bon sens pour distinguer le haut du bas.
« Nous pourrions avoir déjà fini, »
grommela-t'elle.
« Et être loin de... »
Elle produisit un effort surhumain pour ne pas foudroyer du regard les Hata admirés rassemblés à l'est du plateau rocheux. À grand renfort de gesticulation, Reneil semblait en train de donner des ordres. Elaine aurait payé cher pour les entendre. En revanche, Ninévé ne se priva pas de jeter un regard noir à Merilil, Carian et Sareïta, qui serraient toujours la coupe contre son cœur. Encore enfermés avec Ispan, Adeleas et Vanden étaient restés en bas. Les trois Aes Sedai conversaient entre elles, sans accorder d'attention à Ninévé, sauf quand elles leur parlaient. Mais le regard de Merilil glissait parfois sur les régentes, sans jamais s'y attarder. Son masque de sérénité se lézardant quelque peu, elle s'humectait nerveusement les lèvres avec la langue. Avait-elle commis une erreur un peu plus tôt, en soulageant les Hatta admirés de leur courbature? Merilil avait négocié des traités entre nations et apaisé de terribles querelles. À la Tour Blanche, peu de sœurs étaient meilleures qu'elle à ce jeu. Mais Elaine se souvint d'une blague qu'elle avait entendue un jour au sujet d'une négociante d'Omani, d'un maître de la cargaison du peuple de la mer et d'une Aes Sedai. Ça l'avait marquée, parce que très peu de gens prenaient le risque de raconter des blagues sur les sœurs. Ayant trouvé une pierre des plus ordinaires sur le rivage, la négociante et l'Hatta admirée se la vendaient et revendaient, faisant un bénéfice à chaque occasion. Puis arrivait une Aes Sedai. La Domani convainquait la sœur d'acheter la banale pierre pour le double du prix qu'elle avait elle-même payé à l'Hatta admirée la dernière fois. Ensuite, le maître de la cargaison réussissait à persuader la sœur de lui acheter la même pierre pour le double de ce prix-là. Être capable d'acheter ce qu'on possède déjà. Ce n'était qu'une blague, bien sûr, mais révélatrice de ce que pensaient les gens. Au fond, les sœurs plus âgées n'auraient peut-être pas passé un meilleur marché avec les régentes des vents. Dès que le petit groupe avait atteint le sommet de la colline, Avienda s'était campée au bord du gouffre pour sonder le nord, immobile comme une statue. Au bout d'un moment, Elaine comprit que sa presque sœur n'admirait pas le paysage et ne le scrutait pas davantage. Elle avait le regard dans le vide, simplement. Un peu gênée par les trois angréales qu'elle tenait, la fille héritière releva l'ourlet de sa robe et alla rejoindre son amie. La falaise de roche grise à laquelle s'accrochaient quelques buissons agonisants dominait une oliveraie. La pique n'avait rien d'extraordinaire, mais ce n'était quand même pas comme observer le sol depuis le sommet d'un arbre. Bizarrement, regarder en bas donna le vertige à Elaine. Avienda, elle, ne paraissait même pas consciente qu'elle se tenait au bord du gouffre.
« Quelque chose ne va pas ?»
lui demanda Elaine. Avienda ne tourna pas la tête vers elle.
« Je t'ai trahi, »
dit-elle d'une voix monocorde.
« Je n'ai pas su tisser le portail correctement, et tout le monde m'a vu t'humilier. Ensuite, j'ai pris un domestique pour un des rejetés, et je me suis comporté comme une idiote. Les Hatta admirés m'ignorent et foudroient du regard les Aes Sedai, comme si j'étais un toutou qui répond quand elle le siffle. J'ai prétendu pouvoir faire parler Hispan pour toi. Mais aucune Farda Reismai n'est autorisée à interroger un prisonnier avant d'avoir été unie à la lance pendant 20 ans, ni même à assister à un interrogatoire avant de porter ses lances depuis une décennie. Je suis faible et ramolli, Elaine. Je ne supporterai pas de te faire honte une nouvelle fois. Si ça devait arriver, je mourrais. »
Elaine en eut la gorge nouée. Cette dernière phrase ressemblait bien trop à un serment. Prenant Avienda par un bras, elle la tira en arrière. Parfois, les Aiel étaient presque aussi étranges que les Hatta admirés les imaginaient. En principe, Avienda ne risquait pas de sauter dans le vide, mais savait-on jamais. En tout cas, elle se laissa entraîner loin de l'abîme sans résister. Toutes les autres femmes étaient en train de méditer sombrement ou de converser. Ninévé s'entretenait avec les Hatta admirés. Tenant sa natte à deux mains, elle se concentrait pour ne pas hurler, tandis que ses interlocutrices l'écoutaient sans dissimuler leur mépris. Pensive, Merilil et Sareïta veillaient toujours sur la coupe des vents, mais Karéan, sans grand succès, tentait d'engager la conversation avec les femmes de la famille. Réan répondait, certes, mais en affichant sa nervosité, tandis que Kirstian ne desserrait pas les lèvres et que Garenia fermait carrément les yeux pour ne pas voir ça. Elaine parla quand même à voix basse. Après tout, ça ne regardait personne.
« Avienda, tu n'as trahi personne, et surtout pas moi. Rien de ce que tu as fait ne m'a humilié, et ça n'arrivera jamais. »
L'aïel eut une moue dubitative.
« Et tu es à peu près aussi faible et molle qu'une pierre. »
Le plus étrange compliment que quelqu'un ait jamais entendu, sans doute. Pourtant, Avienda sembla touchée.
« Et je parie que les Hatta admirés ont peur de toi aussi. »
Encore une gentillesse bizarre, mais qui arracha l'ombre d'un sourire à l'aïel.
« Quant à Hispan, »
un sujet qu'Elaine aurait préféré éviter.
« Je crois que je pourrais moi aussi faire ce qu'il faut. Mais le seul fait d'y penser me retourne l'estomac. Si j'essayais, je vomirais. Sur ce point, nous sommes à égalité. »
Dans le langage par signe des promises, Avienda dit à son amie qu'elle l'étonnait beaucoup. Bien que ce fût interdit, avait-elle précisé, elle enseigna les rudiments de ce langage à Elaine. Apparemment, être des presque sœurs désireuses de devenir davantage encore que ça changeait bien des choses. Sauf que c'était illusoire, en réalité.
« Je ne voulais pas dire que j'en étais incapable, » précisa Avienda, « bien que je n'aurais pas su m'y prendre. En essayant, J'aurais probablement tué Hispan.
Elle sourit soudain pour de bon et caressa du bout des doigts une joue d'Elaine.
Nous avons toutes deux des faiblesses. Et ça n'est pas honteux, tant que nous sommes les seuls à le savoir.
Oui,
souffla Elaine. Avienda n'aurait pas su s'y prendre. S'y prendre ?
Tu as parfaitement raison, bien sûr.
Cet aïeul réservait encore plus de surprises qu'un trou vert. Elaine glissa la statuette de la femme assise entre les mains de son amie.
Tiens, utilise-la dans le cercle.
Se défaire de l'angréal n'était pas facile. Elaine avait envisagé de s'en servir elle-même. Mais qu'elle ait le sourire ou pas, son amie Avienda, non, sa presque sœur Avienda, avait besoin qu'on lui remonte le moral. L'aïeul fit tourner la figurine entre ses mains, sans doute en se demandant comment rendre un présent à quelqu'un.
« Avienda, tu sais ce que ça fait quand on puise tout le Saïdar qu'on est capable de contenir ? Eh bien, imagine ce que c'est d'en puiser deux fois plus. Pense-y sérieusement. Je veux que tu te serves de cet angréal. C'est promis ?»
Même si les aïeuls n'étaient pas du genre expressif, Avienda écarquilla les yeux. Dans le cadre de leurs recherches, les deux femmes avaient parlé des angréals. Mais Avienda n'avait jamais dû penser qu'elle en utiliserait un dans sa vie.
« Deux fois plus. Puiser et contenir tout ça. » Je ne parviens pas à me représenter ce que c'est. Tu me fais un grand cadeau, Elaine.
Avienda caressa de nouveau la joue d'Elaine avec une douce pression du bout des doigts cette fois. Chez les Aiel, c'était l'équivalent d'un baiser et d'une accolade. Quoi que Ninevé ait eu à dire au Hatan Miré, ça ne lui prit pas longtemps. Rejoignant ses amis en marmonnant, elle fronça les sourcils en regardant Avienda, puis le gouffre. Bien évidemment, elle niait avoir le vertige. Mais elle garda prudemment ses deux compagnes entre le bord de la falaise et elle.
« Il faut que je te parle, »
dit-elle à la fille héritière, en l'entraînant un peu à l'écart. Plus loin du bord, aussi. Et à une assez bonne distance de tout le monde pour être à l'abri des oreilles indiscrètes.
« Je me suis comporté comme une idiote, »
souffla-t-elle, sans regarder sa compagne.
« C'est la faute de cet homme de malheur. Quand il n'est pas là, je n'arrive pas à penser à autre chose. Et quand il y est... « Mon cerveau se grippe carrément. Elaine, c'est à toi de me dire quand je fais n'importe quoi. Je dépends de toi, et je ne peux pas me permettre de perdre la tête pour un homme. Pas en ce moment. »
Sidérée, Elaine en resta un moment sans voix. Ninevé admettant ses erreurs ? Le soleil serait-il devenu brusquement vert ?
« Ce n'est pas la faute de l'âne, Ninevé, et tu le sais. »
Elaine chassa de son esprit ses dernières pensées au sujet de Rand. Ça n'avait rien à voir. De plus, il s'agissait d'une occasion probablement unique. Dès le lendemain, si elle insinuait qu'elle s'était comportée comme une idiote, Ninevé serait sûrement prête à lui frictionner les oreilles.
« Prends-toi en main et cesse d'agir comme une gamine stupide !»
Non, rien à voir avec Rand. Elaine n'avait jamais déliré à ce point à son sujet, pas vrai ?«
Tu as une Aes Sedai et notre chef, paraît-il. Alors dirige-nous et réfléchis !»
Ninevé croisa les mains et inclina la tête.
« Je vais essayer. » C'est promis. Mais tu ne sais pas ce que c'est. En tout cas, je suis navré.
Elaine en resta couette. Ninevé qui s'excusait après s'être auto-flagellée ? Ninevé repentante et contrite ? Pourvu qu'elle ne soit pas malade. Cet instant de grâce ne dura pas, bien entendu. Baissant les yeux sur les deux angréales que tenait encore Elaine, l'ancienne sage-dame s'éclaircit la voix et lâcha.
Tu en as donné un à Avienda, pas vrai ? Je suppose qu'elle le mérite. Mais je déplore que nous devions en confier un au Hatan Miré. Je te parie qu'elle t'entend de le garder ensuite. Lequel est pour moi ?
Avec un soupir, Elaine tendit à son ami le bracelet relié à des bagues. Le bijou dans la main gauche, Ninevé s'éloigna en beuglant à tout le monde de se mettre en place. Parfois, il était difficile de faire la différence entre Ninevé jouant les chefs et Ninevé piquant une crise. Mais tant qu'elle consentait à diriger... Déballée, la coupe des vents trônait à présent au centre du plateau rocheux. Un gros disque de cristal de 2 pieds de diamètre portant à l'intérieur l'image de nuages tourbillonnants. Un objet richement décoré, mais finalement fort simple, lorsqu'on songeait à son pouvoir. Enfin, à ce qu'on attendait de lui plutôt. Ninevé vint se placer à côté de l'artefact et glissa le bracelet à son poignet. Elle bougea la main, étonnée que les chaînes d'or ne la dérangent pas. De fait, le bijou semblait avoir été fabriqué pour elle. Les 3 femmes de la famille étaient déjà en place. Kirstian et Garenia se cachant derrière Réanne, comme si elles avaient encore plus peur qu'avant, ce qui paraissait impossible. Les régentes, elles, se tenaient toujours en ligne derrière Reneil, à quelques 20 pas de là. Relevant l'ourlet de sa jupe d'équitation, Elaine alla rejoindre Avienda près de la coupe.
puis elle jeta un regard soupçonneux au Atahan Miré. Avait-elle l'intention de poser des problèmes? La fille héritière le redoutait. Depuis qu'il avait été question de la présence, à la ferme, de femmes assez puissantes pour se joindre au lien. Quand il s'agissait de hiérarchie, les régentes étaient encore plus à cheval sur le règlement que la Tour Blanche. La présence de Garenia impliquait que Reneil d'Incalon Étoile Bleue, régente des vents de la maîtresse des navires de son peuple, ne pouvait pas faire partie du cercle. Elle ne le devait pas. Reneil balaya du regard les femmes réunies autour de la coupe. On eût dit qu'elle les évaluait, estimant leurs aptitudes.
« Talan d'Ingalin !»
cria-t-elle soudain.
« À ton poste !»
On eût cru entendre claquer la lame d'un fouet. Même Nineveh sursauta. Talan s'inclina, se posa une main sur le cœur, puis courut vers la coupe des vents.
« Metara d'Injunale !»
aboya de nouveau Reneil.
« À ton poste !»
Metara emboîta le pas à Talan. Aucune des apprenties n'était assez vieille pour avoir mérité ce que les Atahan Miré appelaient un nom de sel. Reneil continua à crier des noms, envoyant Rhaenyn et deux autres régentes prendre leur poste. Avec moins de zèle, les trois femmes obéirent néanmoins. Au nombre de leurs médaillons, Neymé et Rissael, deux dignes régentes à l'incontestable aura d'autorité, étaient d'un rang supérieur à celui de Rhaenyn. Mais dans le pouvoir, elle lui était inférieure. Reneil marqua une très courte pause, mais que tout le monde remarqua pourtant.
« Tebrei d'Ingelin, vent du sud, à ton poste! Keire d'Ingelin, vague déferlante, à toi le commandement !»
Elaine fut soulagée que Reneil ne se soit pas nommée elle-même. Un court instant, équivalent à la pause de la régente un peu plus tôt. Avant de se diriger vers la coupe, Tebrei et Keire se regardèrent, d'un air sombre pour l'une et arrogant pour l'autre. Le nombre d'anneaux et de médaillons qu'arboraient ces régentes indiquait que chacune œuvrait pour une maîtresse des vagues. Seul Reneil était d'un rang supérieur, et parmi les Atahan Miré présentes, Doril était leur unique égale. En soie jaune brodée, Keire était un peu plus grande que Tebrei, pour sa part en soie verte. Toutes deux étaient plus que belles, et il n'y avait pas besoin de connaître leur nom pour voir qu'elles étaient sœurs. Les mêmes grands yeux noirs, le même nez droit, le même menton volontaire. En silence, Keire désigna un point, sur sa droite. Sans un mot et sans hésiter, Tebrei se plaça là où sa sœur le lui indiquait, mais son visage resta de pierre. Désormais, un cercle de 13 femmes, pratiquement serrées épaule contre épaule, entourait la coupe. Alors que les yeux de Keire jetaient quasiment des étincelles, ceux de Tebrei évoquaient un ciel d'automne plombé. Elaine se souvint d'un autre proverbe de Ligny. « Aucune lame n'est aussi tranchante que la haine d'une sœur. » Keire regarda les femmes rassemblées autour de la coupe, et qui ne formaient pas encore vraiment un cercle, comme si elle entendait graver chaque visage dans son esprit, ou leur laisser le temps d'assimiler sa détermination furieuse. Un instant désorienté, Elaine se reprit et confia à Talahan le dernier engréal, la petite tortue en ambre, avant d'expliquer comment il fallait l'utiliser. Le mode d'emploi était simple. Mais quand on ne le connaissait pas, on pouvait tâtonner pendant des heures. La fille héritière n'eut pas le temps de dire cinq mots.
« Silence !»
Ses poings tatoués sur les hanches, ses pieds nus bien campés sur le sol, on eût dit qu'elle se tenait sur le pont d'un bateau avant une bataille.
« Interdiction de parler quand on est à son poste. Sauf si j'en donne la permission. Talan, dès que tu seras revenu sur ton bateau, présente-toi au rapport. »
Dans le ton de Keire, rien n'aurait pu faire deviner qu'elle parlait à sa fille. Talan s'inclina, posa une main sur son cœur et murmura quelques mots inaudibles. Keire eut un grognement méprisant, puis elle regarda Elaine, comme si elle regrettait de ne pas être en mesure de lui ordonner aussi d'aller au rapport devant quelqu'un, quand tout ça serait terminé.
« Aujourd'hui !»
reprit-elle, d'une voix qui devait s'entendre au pied de la colline.
« Nous allons devoir faire ce qui n'a plus été tenté, depuis la dislocation du monde, lorsque nos ancêtres combattirent les vagues et les vents déchaînés. Grâce à la coupe des vents, et à l'aide de la lumière, ils survécurent. En ce jour, nous allons utiliser la coupe, perdue pour nous depuis plus de 2000 ans, mais enfin revenue chez ses propriétaires légitimes. J'ai étudié les archives où sont consignées les antiques traditions, et les récits du temps où nos mères apprenaient à comprendre la mer et à tisser les vents. Ces temps où le sel pénétra dans notre sang. Ce qu'il y a à savoir sur la coupe des vents, je le sais mieux que quiconque. »
Keire jeta à Tebrei un regard satisfait, que celle-ci fit mine de n'avoir pas remarqué. Une réaction qui réjouit encore plus sa sœur.
« Si la lumière y consent, ce que les Aes Sedai sont incapables de faire, je le réaliserai aujourd'hui. J'attends que chacune d'entre vous reste à son poste jusqu'au bout. L'échec ne sera pas toléré. »
Les Hatta admirés parurent juger ce discours approprié et juste. Mais les femmes de la famille en restèrent bouche bée. Du point de vue d'Elaine, l'adjectif « grandiose » suffisait à peine à décrire la harangue de Keiré. À l'en croire, la lumière elle-même serait impressionnée. Et si par malheur ce n'était pas le cas, la régente s'autoriserait à être très mécontente. Alors que Ninévé, les yeux ronds, allait prendre la parole, Keiré la devança.
« Ninévé !»
tonna-t-elle.
« Tu vas à présent nous faire une démonstration de ce qu'est le lien. Ne perds pas de temps, femme !»
Ninévé ferma les yeux et pinça les lèvres. Elle semblait sur le point d'avoir une attaque.
« Je suppose que j'ai la permission de parler, »
marmonna-t-elle. Trop bas, hélas, pour que Keiré l'entende. Rouvrant les yeux, l'ancienne sage-dame se fendit d'un sourire à glacer les sangs de n'importe qui. On eût dit qu'elle souffrait de brûlures d'estomac et d'une bonne dizaine d'autres affections gâtant son caractère déjà peu amène.
« Keiré, la première chose, c'est de s'unir à la source. »
L'aura du Saïdar enveloppa soudain Ninévé. Elaine sentit que son ami utilisait déjà l'angréal.
« Tu sais comment faire, j'imagine. »
Ignorant la moue de Keiré, Ninévé enchaîna.
« Si nous avons ton autorisation, Elaine va m'aider pour la démonstration. Je me prépare à venir à la source. »
dit très vite la fille héritière, craignant que Keiré explose, mais sans le faire vraiment. Elle s'ouvrit au pouvoir. Fascinées, les régentes des vents se penchèrent pour étudier son visage, qui n'exprimait pourtant rien du tout. Kirstian et Garenia elles-mêmes oublièrent leur angoisse pour s'intéresser à ce qui se passait.
« Maintenant que j'en suis là, le reste va dépendre de Ninévé. À présent, je vais tendre vers elle. »
Ninévé se tut et regarda Talahan. Elaine n'avait eu le temps de rien lui dire. Se souvint-elle.
« C'est comme avec un angréal, »
dit-elle à la svelte apprentie. Keiré grogna, et Talahan tenta de regarder Ninévé tout en gardant la tête baissée.
« On s'ouvre à la source à travers un angréal, et moi, je vais le faire à travers Elaine. C'est comme vouloir s'unir à l'angréal et à la source en même temps. Rien de bien difficile en réalité. Observe et tu comprendras. Quand viendra le moment de t'intégrer au cercle, place-toi à la lisière du lien. Quand je m'unirai à la source à travers toi, je le ferai aussi à travers l'angréal. »
Bien qu'elle ait recours au truc, isolant les Aes Sedai du climat, de la sueur ruissela sur le front d'Elaine. Mais ça n'avait rien à voir avec la chaleur. La source authentique l'attirait. La sentant pulser, elle vibrait avec elle. Une véritable épreuve. Plus elle restait à un souffle de toucher le pouvoir, et plus l'envie et le besoin grandiraient. Se mettant à trembler, Elaine se souvint de ce que lui avait dit Vandaine. Plus on canalisait depuis longtemps, et plus ce sentiment d'anticipation devenait puissant.
« Regarde avec Avienda, »
dit Ninévé à Talahan.
« Elle sait comment... »
Voyant l'expression d'Elaine, elle ne finit pas sa phrase.
« Regarde !»
Si ça ne revenait pas exactement à utiliser un angréal, ça n'en était pas loin, et on n'était pas censé agir précipitamment. Hélas, Ninévé n'était pas connu pour sa délicatesse. Elaine eut la sensation qu'on la secouait comme un prunier. Rien ne transparaissait à l'extérieur, mais dans sa tête, elle eut l'impression de dévaler une pente en titubant. Pire encore, elle était poussée à s'unir au Saïdar avec une lenteur insupportable. Ce qui ne prit en réalité qu'une seconde, sembla s'étaler sur des heures, voire des jours. Elle aurait voulu crier, mais comment faire, quand on avait le souffle coupé? Comme si une digue venait enfin de céder, le pouvoir de l'unique se déversa en elle, tel un torrent de joie et d'extase. Rayonnante, elle exhala un long soupir de satisfaction. Son bonheur si intense qu'elle sentit ses jambes faiblir. Parvenant par miracle à ne pas halter, elle se redressa et coula à Ninévé un regard plein de reproches. L'ancienne sage-dame haussa les épaules, comme pour s'excuser. Deux fois dans la même journée, ce coup-ci, c'était sûr, le soleil devait avoir viré au vert.
« Désormais, je contrôle le flux de Saïdar qui vient d'Elaine exactement comme le mien, »
dit Ninévé, sans croiser le regard de son ami.
« Et il en sera ainsi jusqu'à ce que je le relâche. Cela dit, ne crains pas que la femme qui dirige le cercle, qui que ce soit. »
Elle fronça les sourcils à l'intention de Keiré.
« Puisse te forcer à puiser trop de pouvoir. Là encore, c'est très proche de ce qui se passe avec un angréal, qui a un effet de tampon contre un excès de Saïdar. Dans un cercle, on ne peut pas en puiser trop. En fait, il n'est même pas possible d'en puiser le maximum qu'on est capable de...
« C'est dangereux !»
s'écria Reneil, en venant se placer entre Keiré et Tébreille, les écartant d'un solide coup d'épaule. Elle foudroya du regard Nineveh, Elaine, et les sœurs qui se tenaient à l'écart du cercle.
« Tu veux dire qu'une femme peut ensemble en capturer une autre et se servir d'elle ? Depuis quand les Aes Sedai connaissent-elles cette méthode ? Si vous tentez de l'utiliser contre une régente, je vous préviens que... ça ne fonctionne pas ainsi, Renail. »
coupa Sarita. Elle tapota l'épaule de Garenia et de Kirstian, qui s'écartèrent pour lui faire de la place. Puis elle regarda Nineveh, l'air un peu gêné, croisa les mains et prit un ton professoral, qui l'aida à gagner de l'assurance, sans doute parce qu'elle voyait Renail comme une élève.
« La tour étudie ce phénomène depuis très longtemps, bien avant les guerres des Trollocs. J'ai lu tous les textes sur ce sujet, qu'on peut encore trouver dans la bibliothèque de la tour. Il est démontré qu'une femme ne peut pas se lier à une autre contre sa volonté. C'est impossible. Tout simplement, il ne se passe rien. La personne doit être consentante, comme lorsqu'elle s'unit à la source. »
Bien que Sarita paraît sûre de son fait, Renail ne sembla pas convaincue. Les Aes Sedai avaient un talent fou pour contourner le serment leur interdisant de mentir. Tout le monde savait ça.
Pourquoi ces études dans ce cas ? Qu'est-ce qui intéressait la tour là-dedans ? Qui sait ? Ces recherches sont peut-être encore en cours. Une accusation ridicule !
Riposta Sarita.
Si tu veux le savoir, c'est la question des hommes capables de canaliser qui a motivé ces études. À l'époque, la dislocation du monde n'était pas qu'un lointain souvenir. Je suppose que très peu de sœurs s'en souviennent, parce que ça ne fait plus partie de la formation de base depuis une période antérieure aux guerres des Trollocs. Mais on peut inclure des hommes dans un cercle. Et comme ce dernier ne se brise pas même si on va au lit, bien, je suppose que tu vois les avantages. Mais ce fut un échec complet. Pour en revenir à nos moutons, je maintiens qu'on ne peut pas entraîner une femme dans un cercle contre sa volonté. Si tu en doutes, essaie et tu verras bien.
Renail capitula. Quand une Aes Sedai énonçait des faits, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Pourtant, Elaine s'interrogea. Qu'y avait-il dans les textes qu'on ne trouvait plus à la bibliothèque ? À un moment, le ton de Sarita avait subtilement changé, comme si il faudrait creuser la question. Plus tard, quand il y aurait moins d'oreilles ennemies alentour. Lorsque Renail et Sarita se furent retirés du cercle, Nineveh tira sur le devant de sa jupe. À l'évidence, ces interruptions l'avaient agacée. Puis elle ouvrit la bouche pour parler.
« Continue ta démonstration, Nineveh !»
ordonna Keyrée. Si ses traits n'exprimaient rien, elle n'était pas très contente non plus. Nineveh eut quelque peine à émettre des sons cohérents. Quand elle y parvint enfin, elle parla à toute vitesse, de peur qu'on l'interrompe encore. La suite de la leçon porta sur la façon de transmettre le contrôle du cercle. Là encore, ce devait être fait volontairement. Alors qu'elle se tendait vers Nineveh, Elaine retint son souffle, jusqu'à ce qu'elle ait senti le subtil changement indiquant qu'elle contrôlait le pouvoir circulant en elle. Et en Nineveh, bien entendu. La fille héritière avait eu des doutes sur le succès de cette opération. Quand il s'agissait de former un cercle, Nineveh n'avait aucun problème, même s'il ne faisait pas dans la délicatesse. Mais pour transmettre le contrôle, il fallait être capable d'une sorte d'abandon, pas de la soumission, non, mais plutôt de l'acceptation, qui n'était pas vraiment dans le caractère de l'ancienne sage-dame. Être incluse dans le cercle ou en transférer le contrôle n'était pas facile pour elle, un peu comme s'ouvrir au Saïdar, jusqu'à une période très récente. Du coup, Elaine conserva le contrôle du lien. Bientôt, il faudrait le passer à Keyrée. Et Nineveh aurait peut-être du mal à répéter l'opération. En un sens, s'excuser était plus facile pour elle, ce qui en disait long. Elaine se lia ensuite à Avienda, afin que Talahan puisse voir comment ça se passait avec un Angréal. Pour autant qu'il y ait quelque chose à voir, tout se déroula à merveille. Très doué pour apprendre, Avienda s'intégra sans difficulté dans le lien. Talahan se révéla elle aussi brillante, ajoutant sans problème au lien son flux de pouvoir encore plus augmenté par un Angréal. Une après l'autre, Elaine intégra toutes les femmes dans le cercle. Un torrent de Saïdar se déversa en elle, la faisant frissonner. Aucune femme n'était encore au maximum de sa capacité d'absorption du pouvoir. Mais comme les flux s'additionnaient, les sens plus aiguisés que jamais, Elaine sentait les parfums qui montaient des petites boîtes en or de toutes les régentes. Et elle parvenait à les dissocier parfaitement les uns des autres. Pareillement, elle distinguait chaque pli des vêtements de toutes ses compagnes avec autant de précision, voire plus, que si elle avait eu le nez pressé sur le tissu. Consciente du moindre souffle d'air, sur ses cheveux ou sa peau, elle captait des phénomènes qui lui seraient restés étrangers sans le pouvoir. Sa lucidité amplifiée ne se limitait pas à ça, bien entendu. Ce lien n'était pas sans ressemblance avec celui que partageaient une Aes Sedai et son champion. Tout aussi intense, il pouvait même se révéler plus intime. Par exemple, Elaine sentait qu'une petite ampoule sur son talon droit, récoltée pendant l'ascension de la colline, taquinait douloureusement Nineveh. Encline à vanter les mérites des solides paires de chaussures, elle cédait bien trop souvent à son goût pour les modèles élégants et surchargée d'ornements. Pour l'heure, l'ancienne sage-dame, les bras croisés, tirait sur sa natte avec la main qui portait le bracelet, l'angréal en réalité. Fixant Keiré, elle semblait imperturbable, mais à l'intérieur, elle n'était plus qu'un tourbillon d'émotions. La peur, l'angoisse, l'anticipation, l'énervement, la méfiance et l'impatience d'agir se bousculaient en elle. Se déversant sur toutes ses émotions et menaçant parfois de les submerger, des vagues de chaleur brûlante semblaient devoir se transformer en un brasier d'un instant à l'autre. Ninevée luttait pour les éliminer, mais elles revenaient sans cesse. Un instant, Elaine se crut en mesure d'identifier ces ondes. Mais ce n'était qu'une illusion, comme quand on pense voir du coin de l'œil quelque chose qui disparaît lorsqu'on tourne la tête. Bizarrement, Avienda était effrayée aussi, mais très peu. Et une féroce détermination parvenait à occulter presque totalement son angoisse. Tremblant de tous leurs membres, Garenia et Kirstian étaient au bord de la panique. Dans cet état, on pouvait s'étonner qu'elles aient pu seulement s'ouvrir à la source. Même si elle tirait nerveusement sur sa jupe, Réan éprouvait une pure extase. Quant aux Atta admirés, Tebrei elle-même n'était que vigilance et méfiance. Et il n'y avait pas besoin de voir sur qui Metara et Reynin concentraient leurs regards pour savoir que Keiré, toujours aussi impérieuse et pleine d'autorité, était pour elle au centre de tout le protocole. Elaine garda justement Keiré pour la fin. Et elle ne fut pas du tout surprise de devoir s'y reprendre à quatre fois, oui, quatre, pour l'inclure dans le cercle. Quand il s'agissait de s'abandonner, la régente ne valait pas mieux que Ninevée. Restait à espérer qu'elle avait été choisie pour ses compétences, pas pour son grade.
« À présent, je vais te transmettre le contrôle du cercle, »
dit Elaine quand elle en eut terminé.
« Keiré, si tu te souviens de ce que j'ai fait avec Ninevée. »
Lui coupant la chic, Keiré arracha soudain le contrôle du cercle à la fille héritière. L'équivalent d'un tourbillon qui vous enlève d'un coup tous vos vêtements, voire qui vous dépouille de tous vos os. Sous le choc, Elaine eut un soupir si violent qu'on aurait pu croire qu'elle crachait. Et si on l'avait cru, tant pis.
« Parfait !»
fit Keiré en se frottant les mains.
« Excellent !»
Le regard rivé sur la coupe, elle l'étudiait, en inclinant la tête de droite à gauche. Pourtant, elle devait avoir aussi l'œil au reste, car lorsque Réan fit mine de s'asseoir, elle lança.
« Garde ton poste, femme. Ce n'est pas une promenade en mer. Reste debout, jusqu'à ce qu'on t'ordonne de bouger. »
Troublée, Réan se redressa en marmonnant entre ses dents. Mais Keiré avait déjà oublié jusqu'à son existence. Alors qu'elle continuait à étudier la coupe, Elaine sentit chez cette femme une détermination apte à déplacer des montagnes. Plus quelque chose d'indéfinissable qui disparut très vite. De l'incertitude, si Keiré, après tout ça, ignorait encore que faire. À cet instant, la régente des vents puisa avec force dans la source. En elle, Elaine sentit déferler presque autant de Saïdar qu'elle pouvait en contenir. Une sorte de couronne de lumière apparut, unissant toutes les femmes du cercle. Plus brillante sur celles qui utilisaient un angréal, certes, mais pas faible pour autant sur les autres. Sous les yeux attentifs de la fille héritière, Keiré réalisa un tissage complexe qui associait les cinq pouvoirs. Une étoile à quatre branches qu'elle posa sur la coupe, avec ce qu'Elaine devina être une parfaite précision. Lorsque ce tissage entra en contact avec l'artefact, la fille héritière retint son souffle. Naguère, elle avait canalisé un filament de Saïdar sur la coupe. C'était dans le monde des rêves, et il s'agissait en réalité d'un reflet de la coupe des vents. Mais elle avait senti à quel point c'était dangereux. Ce jour-là, le cristal clair avait viré au bleu, et les nuages s'étaient mis à bouger à l'intérieur de la coupe. À présent, la coupe des vents était d'un bleu céruléen, et des nuages blancs dérivaient sur toute sa surface. L'étoile à quatre branches en eut soudain cinq. La configuration du tissage s'altéra légèrement, et la coupe devint un océan vert parcouru de hautes vagues. Puis une sixième branche s'ajouta, et le ciel revint, mais différent du précédent. Plus sombre, comme en hiver, et chargé de nuages d'orage gonflés de pluie ou de neige. Une septième branche généra l'image d'une mer glauque battue par une tempête. Huit branches, et retour du ciel. Neuf, et de nouveau la mer. Elaine sentit que la coupe elle-même puisait du Saïdar, et beaucoup plus que toutes les femmes du cercle pouvaient en absorber. À l'intérieur de l'artefact, l'alternance entre ciel et mer continua, mais une colonne de Saïdar étrangement tordue s'en éleva, jaillissant de son centre. Mélange de feu, d'air, d'eau, de terre et d'esprit, elle devint aussi large que la coupe, et s'éleva dans le ciel jusqu'à ce que son sommet soit hors de vue. Lustrée de sueur, Kairé continua à tisser, s'interrompant seulement pour chasser en battant des paupières les gouttes qui s'accumulaient dans ses yeux. Dans l'énorme colonne, la trame du tissage, qui était aussi un tressage, se modifiait avec chaque nouveau flux, écho fidèle de la volonté de Kairé. Elaine se félicita de ne pas avoir demandé à contrôler le flux de ce cercle. Ce que réalisait Kairé exigeait des années d'études et de pratique. Et elle était loin de pouvoir s'aligner. Soudain, la fille héritière remarqua autre chose. Ce tressage sans cesse changeant de Saïdar s'enroulait autour de quelque chose. Une infrastructure invisible qui conférait sa solidité à la colonne. En d'autres termes, la coupe puisait du Saïdar et du Saïdin. L'espoir que personne d'autre ne l'ait remarqué s'évanouit quand Elaine jeta un coup d'œil aux autres femmes. Une bonne moitié, constata-t-elle, regardait la colonne avec une répulsion qui aurait dû être réservée aux ténébreux en personne. Parmi les émotions communes qui tourbillonnaient dans la tête d'Elaine, la peur gagna en intensité. Certaines femmes n'étaient pas plus loin du niveau de panique de Garenia et Kerstian, et c'était un miracle que ces deux-là ne se soient pas encore évanouis. Malgré son impassibilité de surface, Nineveh avait le cœur au bord des lèvres. Encore plus sereine en apparence, Avienda luttait contre une étincelle d'angoisse qui menaçait de se transformer en brasier. Seule Kairé demeurait froide et dure comme l'acier. Rien n'allait se mettre en travers de son chemin, et sûrement pas ce Saïdin souillé par les ténèbres qui se mêlait à son tissage. Non, rien ne l'arrêterait. Soudain, alors qu'elle continuait à tisser, plusieurs toiles d'araignées de Saïdar jaillirent du sommet invisible de la colonne, tels les rayons bizarrement irréguliers d'une roue. Un éventail entier vers le sud, deux plus petits vers le nord et le nord-ouest, et des entrelacs isolés s'étendant dans les autres directions. Ces rayons continuèrent à changer, alors même qu'ils s'épanouissaient dans le ciel, les limites du dessin qu'ils formaient se perdant bientôt, elles aussi, dans le lointain. Encore une fois, il n'y avait pas que du Saïdar. Par endroits, la toile d'araignée géante s'accrochait à quelque chose qu'Elaine ne pouvait distinguer, mais dont l'existence ne faisait aucun doute. Obéissant toujours à Kairé, la colonne de Saïdar et de Saïdin continuait à produire l'étrange toile d'araignée géante, qui semblait à présent vouloir englober l'univers tout entier. Sans crier gare, Kairé se redressa, se massa les reins et se coupa brusquement de la source. Alors que la colonne et la toile d'araignée disparaissaient, la régente, le souffle court, se laissa tomber sur le sol, plus qu'elle s'y assit. La coupe des vents reprit sa couleur d'origine, de minuscules fragments de Saïdar crépitant encore, tout au long de sa circonférence.
« Si la lumière le veut bien, c'est fait !»
soupira Kairé. Elaine entendit à peine. Ce n'était pas une manière de mettre fin à un cercle. Quand la régente s'était coupée de la source, le pouvoir avait disparu en même temps à l'intérieur de chaque femme. Les yeux exorbités, Elaine se sentait comme si elle avait été au sommet de la tour la plus haute du monde. Et brusquement, plus de tour du tout. Une sensation très brève, certes, mais hautement déplaisante. Et qui la laissait épuisée, mais beaucoup moins, bien entendu, que si elle ne s'était pas contentée de servir de vaisseau à Kairé. N'empêche, si se séparer du Saïdar était toujours pénible, se le faire arracher ainsi avait quelque chose d'une torture. D'autres femmes avaient souffert plus qu'elle. Alors que la couronne de lumière s'estompait, Elaine vit que Nineveh s'était écroulée sur le sol, comme si ses jambes avaient fondu sous elle. Haletante, l'air hagard, elle caressait du bout des doigts le bracelet relié à ses bagues.
« Je me sens comme un tamis de cuisine qui vient de filtrer toute la farine du moulin »,
murmura-t-elle. Contenir tant de pouvoir avait un prix, même si on n'en faisait rien, et même avec l'aide d'un angréal. Comme un roseau dans la tempête, Talahan, n'osant visiblement pas s'asseoir, lança des regards en coin à sa mère. Avienda se tenait bien droite, son expression de statue indiquant que c'était au prix d'un véritable effort de volonté. Esquissant un sourire, elle fit un petit geste, dans la langue secrète des promises. Le jeu en valait la chandelle, qu'elle fit suivre d'un deuxième, et même plus que ça, plus que le prix, oui. Toutes les femmes paraissaient épuisées, celles qui avaient utilisé un angréal semblant à bout de force. Quant à la coupe des vents, elle n'était plus qu'un banal objet en cristal, n'était que de grandes déferlantes remplaçaient les nuages qu'on voyait avant à l'intérieur. mais le Saïdar semblait toujours présent, invisible et tissé par personne, mais crépitant par petites étincelles, comme un peu plus tôt, celles qui dansaient le long de la circonférence de l'artefact. Ninevé jeta un coup d'œil au ciel sans nuages, puis elle chercha le regard de Kairé.
« Tout ça pour ça ? Avons-nous accompli quelque chose, oui ou non ?»
Brûlant comme l'air d'une cuisine, un léger vent balaya le plateau rocheux. Kairé se releva péniblement.
« Tu crois que tisser les vents est aussi facile que virer de bord sur un dard de sable ?»
demanda-t-elle, hautaine.
« Je viens de déplacer le gouvernail sur un bateau géant, dont le maître beau est aussi large que le monde. Le navire aura besoin de temps pour changer de cap, et même pour assimiler qu'il est censé le faire. Qu'il doit le faire, plutôt. Mais quand il commencera, le père des tempêtes lui-même ne pourra pas l'en empêcher. J'ai fait ce que j'avais à faire, Aes Sedai, et la coupe des vents nous revient. »
Rhaenyl entra dans le cercle, puis approcha de la coupe et commença à la remballer dans son carré de soie blanche.
« Je vais l'apporter à la maîtresse des navires, »
dit-elle à Ninevé.
« Nous nous sommes acquittés de notre part du marché. Aux Aes Sedai de tenir leurs engagements. »
Merylil émit un grognement sourd, mais quand Elaine la foudroya du regard, elle se ressaisit, véritable incarnation du maintien et de la dignité.
« Les Atta admirés ont peut-être fait leur part, »
dit Ninevé en se levant tant bien que mal.
« Peut-être. Nous le saurons quand ton bateau géant changera de cap. S'il le fait. »
Le regard de Rhaenyl jeta des étincelles, mais l'ancienne sage-dame l'ignora.
« C'est étrange, »
murmura-t-elle en se massant les tempes. Les bagues du bracelet s'accrochèrent dans ses cheveux.
« Je sens comme un écho du Saïdar. Ce doit être cet angréal. » « Non, »
dit Elaine.
« Je le sens aussi. »
Pas vraiment un écho, et pas seulement le crépitement dans l'air, désormais presque inaudible. On eût dit l'écho d'un écho, comme si elle sentait quelqu'un qui utilisait le Saïdar à une assez grande distance. Tournant la tête, Elaine vit que des éclairs déchiraient l'horizon, au sud. Des dizaines de traits bleus argentés zébrant le ciel de l'après-midi, très près des boudards.
« Des pluies torrentielles ?»
avança joyeusement Sarita.
« Le temps commence déjà à redevenir normal. »
Mais il n'y avait pas de nuages dans le ciel, même à l'endroit où les éclairs jaillissaient. À l'évidence, Sarita n'était pas assez puissante pour sentir qu'on canalisait le pouvoir à une telle distance. Elaine frissonna. Elle non plus. Elle n'était pas assez puissante en principe. Sauf si on puisait autant de Saïdar qu'elle venait de le faire au sommet de cette colline. 50, voire 100 Aes Sedai canalisant ensemble. Ou
« Ce n'est pas un des rejetés »,
souffla la fille héritière. Derrière elle, une femme gémit.
« Un seul ne pourrait pas faire ça »,
approuva Ninevé.
« Les rejetés ne nous sentent peut-être pas de la manière dont nous les sentons. Mais sauf s'ils sont aveugles, ils ont dû voir ce qui s'est passé. Que la lumière brûle notre fichue chance !»
Sous son masque serein, Ninevé devait bouillir. D'habitude, elle incendiait Elaine dès qu'elle s'autorisait un tel langage.
« Elaine, prends avec toi toutes les femmes qui veulent te suivre en Andorre, et va-t'en. Je te retrouverai là-bas. Matt est en ville, je dois aller le chercher. Que le ténébreux l'emporte. Il est venu pour moi et ça me crée des obligations. »
Elaine enroula les bras autour de son torse et prit une profonde inspiration. La reine Tailin pouvait être confiée aux bons soins de la lumière. S'il y avait une chance qu'elle survive, cette femme la saisirait. Mais Matt Cotton, son très étrange et très instructif sujet, son sauveur inattendu aussi. Il était venu pour elle également, et il avait largement dépassé le cadre de son contrat avec Rand. Et Tom Merylin, ce cher Tom, dont elle regrettait parfois qu'il n'ait pas été son vrai père, et tant pis pour le coup qu'on aurait pris la réputation de sa mère. Le petit Olver, Chell Vanin, et... Non, elle devait réfléchir comme une reine. Comme le lui avait dit un jour Morgaz, la couronne de roses pouvait être aussi lourde qu'une montagne, et le devoir lui arracherait des larmes. Mais elle devrait quand même entendre la voix de la raison et faire ce qui s'imposait.
« Non !»
souffla-t-elle, puis elle répéta, plus fort.
« Non ! Non ! Ninevé, tu tiens à peine debout. Et même si nous y allons tous, que ferons-nous ? Combien de rejetés, attaques et boudards ? Nous allons mourir pour rien. Nos ennemis n'ont aucune raison de chercher Matt et les autres. C'est nous qu'ils traquent. »
Ruisselant de sueur et vacillant sur ses jambes, Ninevé défia son ami du regard. Merveilleuse, héroïque et stupide Ninevé.
« Tu veux que nous abandonnions Matt, c'est ça ? Avienda, parle-lui de cet honneur que tu as sans arrêt à la bouche !»
En aussi mauvais état que l'ancienne sage-dame, Avienda hésita, puis elle secoua la tête.
« Il y a un temps pour livrer des combats désespérés, Ninevé. Mais pas là. Elaine a raison. Les rejetés n'en ont pas après Matt Cotton. Mais c'est la coupe qui les intéresse. Et nous, bien sûr. Ton ami a peut-être déjà quitté la ville. Si nous y allons, nous risquons de donner à nos adversaires un moyen de défaire ce que nous venons de réaliser.
ou que nous tentions de cacher la coupe. Ils sauront nous le faire dire. »
Ninevé se décomposa, atterré. Touché, Hélène l'enlaça.
« Créature de ténèbres !»
cria soudain une femme.
Aussitôt, toutes les autres s'unirent au Saïdar. Des boules de feu jaillirent des mains de Merilil, de Caréan et de Sarita. En flamme, une grande silhouette ailée tomba en vrille du ciel et alla s'écraser au pied de la falaise.
« Il y en a une autre !»
cria Kirstian. Le corps aussi gros que celui d'un cheval, ses ailes ayant plus de 30 pieds d'envergure, une deuxième créature ailée au long cou et à la queue interminable s'éloignait de la colline. Deux petites silhouettes s'accrochaient à son dos, tandis qu'elle fuyait les flammes propulsées dans les airs par Avienda et les Ata Anmire, qui ne faisaient aucun geste lorsqu'elle canalisait le pouvoir. Échappant à ses tirs infernaux, le monstre disparut derrière une autre colline, du côté opposé de la ferme.
« Nous l'avons tué ?»
demanda Sarita, les yeux brillants d'excitation.
« J'ignore si nous l'avons seulement touché. »
lâcha une des Ata Anmire, dégoûtée.
« Des créatures de ténèbres, ici, à Eboudar ?»
s'étonna Merilil.
« Au moins, ça prouve que ce sont bien les rejetés qui... Ce ne sont pas des créatures de ténèbres. »
dit Elaine d'un ton sinistre. Ninevé n'essaya pas de cacher son angoisse. Elle aussi, elle avait compris.
« Ces monstres sont des Raken. Laissez Anshania. Ce sont eux là-bas. Nous devons filer, Ninevé, et prendre avec nous toutes les femmes de la ferme. Que le deuxième monstre soit mort ou non, d'autres viendront. Toute femme que nous laisserons en arrière portera dès demain le collier et la chaîne d'une damane. »
Ninevé acquiesça lentement, presque douloureusement.
« Mon pauvre Matt !»
crut l'entendre murmurer Elaine. Renée l'approcha, la coupe de nouveau emballée, serrée entre ses bras.
« Certains de nos navires ont déjà eu affaire au Sanchania. Si ces gens attaquent Eboudar, notre flotte a sûrement déjà appareillé. Mon bateau lutte pour son salut, et je ne suis pas à bord. Nous partons !»
Sans un mot de plus, la régente entreprit d'ouvrir un portail là où elle était. Le tissage s'en mêla lamentablement, bien sûr, puis brilla intensément avant de disparaître. Mais Elaine ne put retenir un petit cri. Là, au milieu de toutes ces femmes, sans précaution.
« Tu n'iras nulle part, si tu ne prends pas le temps d'étudier ce plateau rocheux jusqu'à le connaître parfaitement !»
cria la fille héritière. Elle espéra qu'aucune des Ata Anmire ayant participé au cercle n'essaierait d'ouvrir un portail. Pour connaître un endroit, s'unir au Saïdar était le moyen le plus rapide. À la place de Renail, elle aurait réussi sans problème. Idem pour les 12 autres membres du cercle.
« D'où que tu partes ! Tu ne pourras pas arriver sur un bateau en mouvement. Je pense que c'est tout simplement impossible. »
Merilil approuva du chef, ce qui ne voulait pas dire grand-chose. Les Aes Sedai croyaient en une multitude de choses, et dans le lot, il arrivait qu'elle ne se trompe pas. Mais si ça contribuait à persuader les régentes, pourquoi se plaindre? Dans son état, Ninevé n'était pas capable de jouer les chefs. En espérant faire honneur à la mémoire de Morgaz, Elaine prit donc la situation en main.
« De toute façon, vous n'irez nulle part sans nous. » parce que les conditions du marché ne sont pas toutes remplies. La coupe des vents ne vous reviendra pas, tant que le climat ne sera pas de nouveau normal. »
Une interprétation du pacte un peu tirée par les cheveux. Renail voulut protester, mais Elaine lui coupa l'herbe sous le pied.
« De toute façon, tu as passé un marché avec Matt Cotton, un de mes sujets. Tu vas donc nous suivre, de ton gré ou attaché en travers d'une selle. Ce sont les termes que tu as acceptés. Alors, Renail d'Incalon, étoile bleue. » « Descends de cette colline avant que les Sanchania nous tombent dessus avec une armée et des centaines de femmes capables de canaliser. Tu ne sais pas à quel point ils aimeraient nous voir porter un collier comme ces malheureuses. Allons, exécution, et au pas de course !»
À la grande surprise d'Elaine, tout son petit monde obéit.